Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Fana, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Les 72 membres de la commission chargée de la finalisation du projet de la nouvelle constitution du Mali sont connus. Ils ont 15 jours pour réaliser le projet final de la nouvelle loi fondamentale. Le suspect d'assassinat pour décapitation a avoué avoir commis 11 cas de décapitation, dont 10 cas à Fana et 1 cas à Bamako. Mais les enquêtes se poursuivent à Fana, a indiqué le parquet de la localité. Une grève de 5 jours reconductible du syndicat du personnel de l'hôpital du Point G, 2 mars, lundi 30 janvier. Une autre est prévue cette semaine au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Les travailleurs réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Je vous le disais donc dans les titres, les membres de la nouvelle commission chargée de la finalisation du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali ont été nommés ce vendredi 27 janvier par décret présidentiel. Mais depuis la publication de cette liste, les réactions n'ont pas tardé tant du côté des partis politiques que des groupes armés signateurs de l'accord pour la paix et la réconciliation. Plus de précisions avec Draman Maïga.
Ils sont au nombre de 72 personnalités, dont des membres du gouvernement, des anciens ministres, des représentants des partis politiques et des groupes armés signataires. Le pilotage de cette commission sera assuré par un coordonnateur et le rapporteur en plus de son adjoint. Mais depuis la publication de la liste, les réactions s'enchaînent. Dans un communiqué, le parti politique La Convergence pour le Développement du Mali, CODEM, affirme être surpris de voir le nom d'un de ses membres sur la liste de cette commission. Ce groupement politique dit dans le texte rester fidèle à sa posture de rejet total du projet de la nouvelle constitution. De son côté, en plus d'indiquer sa non-participation à cette commission chargée de la finalisation de la nouvelle constitution, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA remet sur la table sa demande d'une rencontre bilatérale avec la partie gouvernementale en terrain neutre. Il faut rappeler que cette commission a pour mission d'examiner et d'amener si nécessaire l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution en vue de produire et de soumettre au président de la transition le projet de constitution du Mali. Selon le décret de sa création, sa mission ne dépassera pas 15 jours, remettra au président de la transition le projet de constitution et un rapport de fin d'émission.
Informer les populations du contenu de ce projet après sa validation est aussi un autre défi. Pour Jean-Pierre Claver-Bakoroba Traoré, il faut surtout que le Malien soit bien imprégné de cette base juridique qui va gérer le pays bien avant la tenue du référendum. Le chercheur et analyste politique est joint par Draman Maïga.
Peut-être qu'il faudrait qu'on voit concrètement comment va être le programme de travail de la nouvelle commission. Les personnalités qui ont été nommées ont d'autres fonctions. Il faudra savoir si, dans le courant du mois de février, elles auront toute la latitude et le temps nécessaire pour finaliser le travail. Maintenant, par rapport à l'information de la population, il faut dire que l'expérience sur le terrain nous montre que le temps ne sera certainement pas suffisant pour que la population prenne connaissance du contenu du nouveau projet de constitution et pour qu'elle puisse en apprécier toute la portée. Mais cela dit, tout va dépendre de la façon dont on va organiser la dissémination de l'information pour que la population puisse être vraiment imprégnée.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Autre titre, le suspect d'assassinat pour décapitation a avoué ses crimes. À la suite des interrogatoires, a indiqué le parquet de première instance de Fana. Selon lui, le suspect a affirmé avoir commis 11 cas de décapitation, dont 10 cas à Fana, parmi lesquels 5 femmes et 1 cas à Bamako. Il ajoute aussi que les enquêtes sont toujours en cours dans la localité. Plus de détails avec Lale Tankara.
Selon le parquet de Fana, le présumé tueur était dans les mains de la justice depuis son dernier forfait, commis le 2 août 2021 à Fana. Le juge explique qu'il a fini par avouer les faits qu'il avait précédemment niés lorsqu'il avait été interpellé. C'était suite à l'ouverture d'une nouvelle enquête en cours contre lui pour assassinat avec décapitation déposée par les parents d'une de ses victimes, a souligné le magistrat. Selon les responsables en charge de l'enquête, le présumé suspect a été arrêté à Bamako. Bamako au niveau de la Tour d'Afrique. Grâce à une collaboration entre la police du 7e arrondissement de Bamako et la police judiciaire de Fana. Les autorités judiciaires annoncent que depuis l'arrestation de ce présumé en août 2021, qu'aucun cas de décapitation n'a été commis à Fana.
Un reportage signé Lale Tangara. Parlons à présent de ces arrêts de travail annoncés dans le pays. Une grève de 5 jours reconductible du syndicat du personnel de l'hôpital du Point G est en cours depuis le lundi 23 janvier. Une autre est prévue cette semaine au niveau de l'hôpital Gabriel Touré. Les syndicats des deux grandes structures hospitalières du Mali exigent du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie, du plateau technique, entre autres. La société civile de son côté demande au Premier ministre de s'impliquer personnellement en vue de décanter la situation. Le point avec Alice ici.
Le syndicat du personnel du centre hospitalier universitaire du Point G a observé un arrêt de travail du 23 au 27 janvier 2023. Un autre est prévu du 30 janvier au 3 février prochain. Ces différents arrêts de travail interviennent après plusieurs autres l'année dernière. Aucune rencontre avec le gouvernement par rapport à cette situation n'est à l'ordre du jour, a indiqué le docteur Landori. Après ces arrêts de travail, si nos doléances ne sont pas satisfaites, nous irons en grève illimitée à partir d'ici février, poursuit-il. Le syndicat de cette structure hospitalière de référence réclame 9 points dont l'amélioration du cadre de travail et du plateau technique. L'hôpital de Gabriel Touré aussi n'est pas épargné par ses arrêts de travail. Le personnel de cet hôpital aussi prévoit d'aller en grève le 8 février prochain. Dans une déclaration, les responsables syndicaux de l'hôpital demandent au gouvernement de respecter ses engagements et d'arrêter de mépriser les travailleurs. Leurs revendications s'articulent autour de 3 axes qui sont entre autres l'amélioration du cadre de travail et du plateau technique. Nous ne voulons pas de la grève dans cet hôpital, a affirmé Jimmy Kanté. Le syndicaliste ajoute que toutes les démarches que nous avons entamées pour discuter avec le gouvernement n'ont pas abouti. Le secteur de l'éducation non plus n'est pas épargné par cette grogne. À Yoroso, dans la région de Kouchala, les promoteurs d'écoles privées étaient aussi en arrêt de travail de 5 jours cette semaine. Objectif, exiger du gouvernement le paiement de leurs bourses et subventions.
Restons dans le secteur de la santé pour parler de la lèpre. La journée internationale dédiée à la lutte contre cette maladie a été célébrée le 29 janvier dernier. Selon les responsables sanitaires, la prise en charge de cette maladie est garantie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. Selon la structure en charge de cette pathologie, près de 200 malades sont sous traitement au Mali depuis 2022. Mamadou Sidibé, coordinateur du programme de lutte contre la lèpre au Mali, et le jeune par Sita Sidibé.
La lèpre est une maladie infectieuse due à un microbe. Sa prise en charge est garantie au Mali grâce aux médicaments fournis par l'OMS gratuitement à tous les pays qui connaissent les maladies de la lèpre. Pour les malades, il y a deux formes de lèpre. Il y a des formes graves et des formes non graves. Pour les formes non graves, c'est 6 mois de traitement. Et pour les formes graves, c'est 12 mois de traitement. Bon, actuellement, on peut faire une évaluation à peu près environ entre 150 et 180 malades sont sous traitement au Mali pour toute l'année 2022. Bien pour la conclusion, ce n'est pas une maladie héréditaire d'abord. Mais par contre, c'est une maladie transmissible par les microbes qui sont transmises par des sueurs, par les plaies, des lésions, des lépreux et par la respiration des malades.
À présent, cap sur la rétrospective de l'actualité de la semaine. Elle a été marquée par la libération des otages ce jeudi 23 janvier à Badiangara, également les festivités du festival Ogobanya. Le résumé avec Moussa Agmahaha.
Les 9 otages, parmi lesquels 3 agents de santé et 6 passagers de Bankas, ont été libérés jeudi dernier à Badiangara suite à une médiation de la société civile et de bonne volonté de la région. Le gouverneur a invité l'ensemble de la population à se mobiliser autour de la paix et du vivre ensemble entre les communautés de la région de Badiangara. Les festivités de la 8e édition du festival Ogobanya ont aussi marqué l'actualité de la semaine. Des soirées traditionnelles, sorties des masques d'Ogon et des foires d'exposition ont été entre autres les activités Le festival a pris fin ce dimanche.
Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde a été assurée par Mamadi Keita. Voici donc un rappel des différents titres développés. Les 72 membres de la commission chargée de la finalisation du projet de la nouvelle constitution du Mali sont connus. Autre titre, c'est l'arrestation du suspect d'assassinat pour décapitation qui a avoué commis 11 cas de décapitation, dont 10 à Fana et 1 cas à Bamako. Les enquêtes enquêtes se poursuivent, Afana a indiqué le parquet de la localité. Vous pouvez réécouter toute cette édition sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamu au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Idrissa Sakho. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cet adage se matérialise dans de nombreux secteurs au Mali. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui récoltent des bouts de métaux, des boîtes de conserve, des vieux climatiseurs, des chaussures usées, entre autres. Cette activité a des avantages écologiques et permet à ces gens de gagner leur pain quotidien. Le magazine Parlons de l'environnement, qui est une rediffusion, est présenté par Mariam Koulibaly.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Adama Sagara est un jeune adolescent qui arpente les rues à la recherche des métaux et des chaussures en plastique usées. Il a quitté les bancs depuis plusieurs années, mais Adama arrive à s'en sortir grâce à cette activité.
Jusqu'à Titibougou, on a un bénéfice. On paye les métaux usés et on les revend à 125 francs CFA. On trouve 75 francs comme bénéfice, mais c'est fatigant.
Cette étape est donc le point de départ. Les objets récupérés sont ensuite acheminés chez des grossistes comme Adama Sangaré. Ces derniers les trient et les expédient vers des usines qui les transforment.
Voilà. Nous les chargeons dans les camions qui les livrent dans les usines. Il y en a une à Tienfala. J'ai entendu dire qu'elle les transforme en fer rond.
Mais le processus est long et périlleux, selon Yaya Touré, un autre grossiste. Il affirme que ses apprentis sont convoqués presque quotidiennement à la police pour les motifs qu'il cite ici.
Nous sommes tous les temps au commissariat. Les jeunes viennent nous vendre des objets, après reviennent avec la police. On se fait enfermer pour rien. On nous traite de receleurs alors qu'on n'en sait rien. Et on ne fait pas souvent la différence. On se blesse en manipulant ces bouts de métaux. Nous portons des gants et faisons souvent des injections contre le tétanos.
À Bamako, d'autres personnes confirment les propos de Yaya Touré. Elles estiment aussi que maintenant, Bamako est moins pollué par ces objets de récupération, contrairement aux années précédentes.
Certains viennent du village uniquement pour ce travail. Le fait de faire ce travail assainit l'environnement et protège les enfants.
Avant, on se blessait beaucoup avec les métaux usagés. Aujourd'hui, on n'en voit plus dans les rues.
Je les félicite beaucoup.
Mais ils ne peuvent pas faire ce travail indéfiniment. Il faudrait essayer de les insérer dans d'autres secteurs.
Ahmed Sekou Diallo, environnementaliste, avoue qu'il n'y a pas eu d'études menées sur ce secteur. Mais il explique que ce mode de recyclage permet de protéger les populations contre les effets nocifs de ces déchets.
C'est que dans le contexte actuel du pays, l'État n'offre pas suffisamment d'opportunités et d'alternatives aux jeunes. Donc, si les jeunes trouvent un palliatif en se trouvant du travail, nous pouvons dire que c'est positif. Mais ça joue aussi sur l'environnement parce que ça nous permet de dégager les rues de ces déchets visionnent des fois les rues. Si c'est bien organisé, c'est parqué quelque part et une entreprise vient acheter pour les recycler. Souvent, c'est exporté parce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent les acheter et aller les recycler dans d'autres pays.
À noter que des grossistes demandent aux autorités de s'intéresser au secteur pour leur garantir plus de sécurité.
Au commissariat, on nous oblige de payer de fortes sommes d'argent pour rembourser la personne qui s'est faite voler. Je propose qu'on nous donne des documents à faire signer par ceux qui viennent nous vendre ces objets pour nous protéger.
Que deviennent ensuite ces métaux usés? Le prochain numéro du magazine Parlons de l'environnement sera consacré à ce thème. Ce numéro a été réalisé et présenté par Mariam Koulibaly. À la semaine prochaine.